matin. Merci de nous réunir encore en ta présence. Je me présente devant toi ce matin comme cette âne que tu as utilisée pour entrer dans Jérusalem. Sers-toi de moi afin de te glorifier, Père, et fais ton entrée dans le corps de quelqu'un, dans le cœur de quelqu'un, dans la famille d'une personne ici présente et dans la vie de quelqu'un. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je bénis les seigneurs de me retrouver de ce côté. Et je suis très contente pour ce matin en tout cas. Et j'ai béni les seigneurs. Alors, sans plus tarder, je vais me présenter brièvement. Je suis Merdi, j'ai 20 ans. Je suis étudiante en faculté de santé à l'Université d'Angers. Et ce matin, je vais vous apporter l'enseignement. Et voilà. Premièrement, je pensais apporter l'enseignement sur la prière ce matin, parce que c'est les fils conducteurs dans Oxygène. Cependant, très rapidement, le Seigneur m'a convaincue autrement. Alors, le thème sur lequel nous parlerons ce matin, c'est le temps. Et ça fait plus d'un mois que le Seigneur m'enseigne sur le temps, et je suis beaucoup édifiée, et j'espère que vous également vous le serez à la fin de ce temps. Alors, on va parler du temps et si vous voulez, en d'autres termes, j'aimerais nous poser une question ou un sous-thème si vous voulez. Et s'il était temps ce matin? Et on va découvrir tous ensemble s'il était temps de faire quoi, pourquoi, comment et de quelle manière. Alors, puisque ce concept est très vaste, nous allons dans un premier lieu définir l'approche avec laquelle nous l'aborderons. Nous allons premièrement parler du temps selon Dieu qui est le kairos. Enfin, à chaque fois que je dirai kairos, comprenez que c'est temps selon Dieu. Puis nous allons parler du temps selon les hommes, le chronos. Puis nous parlerons des contextes dans lesquels ces deux temps peuvent être en fusion, en décalage ou s'impacter réciproquement. Et j'ose croire que vous serez édifiés après ce moment. Amen. Alors, vous serez d'accord avec moi que pour avoir du temps, il faut être vivant. Donc, la notion du temps est intimement liée à celle de la vie. Et je pense que nous sommes tous ici conscients que seul Dieu est l'auteur de la vie. En d'autres termes, seul Dieu peut accorder du temps. Alors, je crois fermement que ce matin, je suis en face des personnes vivantes, tant physiquement que spirituellement. Et si vous ne l'êtes pas spirituellement, on priera pour que vous soyez ressuscités avant de sortir de cet endroit. Alors, je vous invite à lire le premier texte avec moi, qui se trouve dans Genèse, le chapitre 15, le verset 13. Alors, ma Bible me dit ceci. « Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » J'aimerais qu'on puisse retenir ces nombres, 400. Puis on va lire le deuxième texte dans Exode, chapitre 12, le verset 40 et 41. Ma Bible me dit ceci, « Les séjours des enfants d'Israël en Égypte furent de 430 ans, et au bout des 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. » Amen. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler du kairos, du chronos, puis des contextes dans lesquels les deux temps peuvent s'influencer ou être en décalage. Alors, dans le premier texte, on a lu tous ensemble que l'Éternel qui parle à Abraham et lui dit « Tes descendants seront esclaves dans un pays étranger pendant 400 ans. » Puis nous lisons dans Exode, le chapitre 12, et là on voit qu'au lieu de faire 400 ans, ils ont fait 430 ans en Égypte. Et alors la première question que je m'étais posée en lisant, enfin, Dieu serait-il trompé dans ses calculs, mais pourquoi y a-t-il un décalage? Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ce matin. Alors j'aimerais que nous puissions retenir 400 puis 430. Et pour comprendre pourquoi ces décalages, je vous invite à lire avec moi Actes des Apôtres, le chapitre 7, le verset 17 à 36. Je vais lire rapidement. La Bible me dit ceci, le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Le peuple s'accrut, se multiplia en Égypte, jusqu'à ce qu'apparut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, ses fils, les fils d'Israël. Et il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité, frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient. Il les exhorta à la paix. « Homme, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qu'il maltraitait, son prochain, le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse prit la fuite, et il alla séjourner dans les pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui parut au désert, dans la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse qu'ils avaient régné en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Amen. Bon, je sais que c'était long, mais je vais essayer de résumer. Alors, on a lu dans Genèse, Dieu qui parle à Abraham et qui dit, qui affirme que tes descendants seront esclaves pendant 400 ans. Puis dans Exode, nous constatons qu'au lieu de faire 400 ans en Égypte, ils ont au contraire fait 430 ans. Dans plus que la durée prévue. Et quand nous lisons dans Actes, le texte que je viens de lire tout à l'heure, on voit pourquoi est-ce que ces décalages au fait a eu lieu. Dieu demeure fidèle à sa parole, mais d'autre part, nous sommes également responsables. Mais j'aime comment est-ce que le verset 17 débute. La Bible dit « le temps approchait ». Donc Dieu savait que le temps de la délivrance approchait et que le kairos touchait déjà à sa fin, et qu'il fallait effectivement qu'il ait une sortie des Israélites. Alors Dieu commença à mettre en pratique le plan de la libération par la naissance de Moïse. Un nouveau roi vient, un roi méchant qui arrive. Et tout cela, c'était au fait des éléments incitateurs à leur exode. Dieu préparait déjà la sortie. Moïse qui naît dans un contexte où les enfants sont tués. Cependant, lui, il a la grâce de ne pas connaître cette fin odieuse. Il a été pris par la fille du Pharaon et tout. Il a grandi dans la maison des Égyptiens. Il avait toute la sagesse égyptienne, au fait. Dieu préparait tellement leur délivrance au point d'introduire les libérateurs dans le camp adverse, de telle sorte que ces derniers puissent vraiment s'acquérir de leur sagesse, de leur technique. Au fait, ils préparaient déjà leur sortie. Alors, il fallait que les libérateurs sachent comment fonctionnait l'ennemi pour mieux, au fait, vivre ce temps d'exode. Alors, par rapport au temps, une question que je me suis posée, mais où se situe Dieu par rapport au temps? Est-ce que Dieu est dans le temps, Dieu hors du temps, Dieu est, enfin, selon vous, Dieu est dans le temps? Bon, on va faire comme Athènes. Qui dit que Dieu est dans le temps? Qui dit que Dieu est hors du temps? Ok. Alors, Daniel, le chapitre 2, le verset 21, nous dit « Celui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Amen. On comprend que Dieu n'est pas figé dans le temps, mais Dieu est en dehors du temps. Enfin, un peu comme nous et nos téléphones. On peut bien faire des publications sur les réseaux et tout, on peut bien mettre nos photos. Dieu peut très bien agir dans le temps, mais Dieu n'est pas figé dans le temps. De la même façon que toi, tu n'es pas figé dans ton téléphone, tu n'es pas inclus dans ton téléphone. Donc c'est un peu ça. Et enfin, moi je dis ceci par rapport à ce texte, que dans la chorale des circonstances, Dieu est le chef d'orchestre. Enfin, j'aime bien la musique et c'est un peu ça qui m'a inspiré de le dire. Dans la chorale des circonstances, Dieu est le chef d'orchestre. Parce que Dieu a une telle finesse dans l'organisation des événements que par moments, enfin, je suis simplement éblouie. Et il y a beaucoup d'exemples dans la nature qui nous le prouvent, entre autres, enfin, beaucoup d'exemples en biologie, par exemple. Enfin, prenons le cas du développement d'un fœtus. Tout est tellement coordonné, je ne sais pas, au nanomètre près. Donc tout est tellement bien mesuré, la formation de l'enfant, tout est tellement bien mesuré. Et c'est la même chose que Dieu fait même dans la réalité. Il coordonne tellement bien les événements avec une très grande exactitude, une très grande finesse, enfin une très grande précision. Au point que, enfin, je conclue directement que s'ils ont fait 430 ans au lieu des 400 ans, c'est pas la faute de Dieu. C'était pas du tout la faute de Dieu. Si il peut avoir le contrôle d'un tout petit être dans un petit corps jusqu'à former un être entier, ce n'est pas gérer le temps qui peut lui poser problème. Alors Dieu n'est pas figé dans les temps. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il est éternel. Éternel qui veut simplement dire qu'il n'a pas de début ni de fin. Alors très souvent nous nous trompons en disant que ouais, telle chose est éternelle, telle chose ne prendra pas fin. Si une personne ou si un objet a un début, une fin, cela ne lui permet pas d'avoir ce qualificatif d'éternel. Il devient simplement immortel. Mais quand on est éternel, on n'a pas de début, on n'a pas non plus de fin. Alors, comme je vous ai dit, Dieu qui est tellement doué dans la synchronisation des événements, organisait déjà leur sortie, leur exode. Par la naissance de Moïse, un nouveau roi qui vient, le peuple qui augmente en nombre, tout ça pour préparer des éléments à leur sortie. Et Dieu le fait par fidélité à sa parole dite à Abraham dans Genèse. Alors, pendant que dans le Kairos, tout s'aménageait pour leur exode, on va essayer de voir comment est-ce que les choses se passaient dans le Chronos. Je vais relire rapidement le verset 23, 24 et 25. La Bible dit, il avait 40 ans lorsqu'il y vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un quand au trajet, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Pendant que du côté des dieux, tout était cohérent, tout était déjà en train de se marier, préparé à leur sortie. Du côté du Chronos, le peuple d'Israël n'avait aucunement compris qu'il était temps. Raison pour laquelle j'ai intitulé mon sous-thème « Et s'il était temps ce matin ?» Alors, on va essayer d'y répondre progressivement. Moïse, dans le verset 25, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu accordait la délivrance par lui. Mais ils n'ont pas du tout compris. Et vu qu'ils étaient déjà en grand nombre, dans un pays étranger, normalement, ils pouvaient facilement se faire, actuellement on peut dire coup d'État ou je ne sais pas, à peu près, pour préparer leur sortie. Donc déjà qu'ils étaient nombreux, que les natifs, ils pouvaient facilement sortir, tout en étant coopératifs avec la personne qui était censée guider l'Exode. Mais ceux qui devaient être un atout pour Moïse ont été par contre le sujet, l'objet ou la cause pour laquelle il a été contraint de fuir l'Égypte. Et du verset 17 au verset 36, nous voyons le nombre 40 revenir à trois reprises. Et alors, j'ai fait mes recherches pour savoir qu'est-ce que ce nombre voulait dire. Et dans la Bible, il est repris plusieurs fois. Et d'après mes recherches, 40 veut dire nouveau cycle, phase de changement, traversée, épreuve. Nouveau cycle, phase de changement, traversée, épreuve. Et donc, Moïse avait 40 ans lorsqu'il a eu à cœur d'aller voir ses frères. Donc, il a passé le premier cycle de sa vie à acquérir la sagesse égyptienne. Et au bout de ces cycles, il fallait commencer un nouveau cycle, celle de la sortie. Et donc, pendant ces premiers cycles, il a eu le temps de mieux connaître comment est-ce que fonctionnaient les Égyptiens et tout. Et au bout de ces cycles, il fallait effectivement entamer le processus de la sortie. Mais les élus étaient dans le sommeil, dans l'ignorance. L'ignorance de la promesse, l'ignorance du temps dans lequel ils vivaient. Et alors, j'aimerais faire une petite parenthèse. Très souvent, on passe notre temps dans la journée à faire ce qui nous semble correct, à nous occuper de X ou Y. Et il nous arrive parfois de passer des jours, entre guillemets, vides parce qu'on ne fait rien de grave ou on passe le temps à parler sur les réseaux sociaux avec des gens. C'est pas du tout mal. Mais une chose que j'ai apprise en préparant cet enseignement, c'est que le temps qu'on offre à une activité, à une personne, n'est humainement pas récupérable. Déjà, enfin, d'après les calculs, on passe un tiers de notre vie à dormir. Donc, t'as beau, enfin, tu peux vivre à 80 ans sur Terre, mais sache que un tiers des 80 ans, tu le passes en dormant, humainement parlant. Et le deux tiers qui reste, on est censé travailler, vivre et s'investir également pour Dieu. Et très souvent, on passe à côté, on tombe dans la distraction, on tombe dans le sommeil spirituel, on ignore la promesse et on n'essaie plus lire le temps. Et les 40 ans, enfin, lorsque Moïse a eu 40 ans, c'était le temps pile, le moment précis pour qu'il puisse commencer ses processus d'exode. Bon, j'ai une question à vous poser. Sincèrement, on est à l'église. Qui n'était pas fort en maths quand il était au lycée ou au collège? Je ne sais pas, t'entends là. Qui aimerait bien qu'on puisse supprimer les mathématiques des cours? Merci. Donc, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Toutes les personnes qui ont levé la main et qui n'aimaient pas les maths, je vais rattraper tout votre retard en mathématiques en 5 minutes. Vous êtes partant? Ok, j'ai des petites questions et j'attends vos réponses. Alors, je vous avais demandé de retenir le premier nombre qui était 400 ans. Super. Et le deuxième nombre qu'on a lu dans Exode, c'était super. Vous avez déjà un bac plus S. Alors, et donc la différence, ça fait. Et ils ont fait 30 ans de plus en Égypte. Ça, on l'a très bien compris. Puis, dans le verset 30, on nous dit 40 ans plus tard, un ange apparut au désert à Moïse. Donc, avant de quitter Égypte, il avait 40 ans. 40 ans plus tard, un ange apparaît. Il avait quel âge au final? Et donc, il avait 80 ans lorsque l'ange lui apparut. Et il est revenu en Égypte et tout, il a conduit le peuple. Et on a dit que l'écart, c'était de 30 ans. Alors, quand ils sont sortis, lui, il avait 80. Imaginons qu'il n'ait pas eu des décalages, donc qu'il n'a pas eu les 30 ans. Normalement, la sortie devait se faire à quel âge de Moïse? À ses 50 ans. Donc, si Moïse devait avoir 50 ans, au cas où il n'y avait pas de décalage, et qu'il devait sortir à 400 ans pile, donc, on sous-entend. Bon, maintenant là, j'ai vraiment besoin des matheux. Alors, il devait sortir, enfin, on met 50 à droite, 400 à gauche. pour qu'on puisse mieux comprendre. Avant qu'il ne fuit, il avait déjà 40 ans. Donc, si on fait 400 ans moins 40, on sous-entend qu'ils étaient déjà à 300. Vous avez un bac, c'est quoi la mention la plus haute? Enfin, chez moi, on dit bac S, satisfaction. Et je pense que là, vous avez atteint la mention D, distinction. Donc, il devait normalement, ils étaient environ à 360, on a dit. 360? Oui. Bon, maintenant, on va revenir dans la réalité. Plus les 30 qu'ils avaient. Donc, c'était environ à 300? À 390. Donc, en d'autres termes, enfin, en tout cas, c'est pas dit dans la Bible. Ce sont mes calculs. Je sous-entends que c'était vers les 390e année que Dieu l'avait déjà mis à cœur le projet d'aller voir ses frères. Et lorsqu'il a fui 40 ans de plus, donc 390 plus 40, ils sont arrivés à 430 ans. Donc voilà. Alors la grande question qu'on va se poser, bon, merci, à quoi cela s'applique à nous aujourd'hui? Le Seigneur me met à cœur de nous dire ceci. Individuellement et collectivement, nous avons tous reçu une parole de Dieu. On est d'accord? On a tous reçu une promesse. On a tous reçu des paroles parfois précises et claires, dont nous ignorons peut-être le temps d'accomplissement et pour laquelle nous accordons parfois, et d'ailleurs je suis tentée de dire souvent, toute la responsabilité à Dieu au sujet du temps d'accomplissement. Il nous arrive de faire des prières du genre « Seigneur, toi seul sais, quand la promesse va s'accomplir, c'est toi seul sais, en attendant, moi j'attends. » Je croise mes mains et j'attends. Alors que ce matin, le Seigneur me met à cœur de dire à quelqu'un que c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut avoir cette flexibilité de l'esprit pour lire le temps. Ce peuple avait reçu une promesse claire et précise. Il le savait. Dieu a organisé leur entrée en Égypte et Dieu a organisé également leur sortie d'Égypte. Sauf qu'ils n'ont pas eu cette facilité de lire le temps dans lequel ils vivaient. Et pendant que le Kairos, comme je l'ai dit tout à l'heure, était en train d'organiser les événements, eux dans le chronos étaient dans la distraction. Au point que l'Égyptien les battait déjà. Et entre eux, il y avait vraiment la division. Donc, collectivement, ils étaient déjà divisés et ils n'avaient pas du tout conscience du temps dans lequel ils vivaient, alors que c'était là le temps de la délivrance. Et après, on est très souvent tenté de dire à Dieu, « Ouais, mais c'est toi qui avais dit, c'est toi qui es censé accomplir. » Et on n'a pas forcément la notion de lire le temps dans lequel nous vivons. Alors que Dieu nous appelle, il nous invite à ne pas subir notre temps, mais à être acteur dans notre temps. Nous voyons Josué dans l'Ancien Testament qui a commandé que le soleil s'arrête. Et cela s'est fait. On a l'exemple d'Élie, et j'aime commenter ce que dans le Nouveau Testament le dit. Il était un homme de même nature que nous. Mais quand il a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois, je crois, cela s'est effectué. En d'autres termes, ces deux hommes ont eu une certaine influence sur le temps. Ils ont eu une certaine influence sur les kairos dans lesquels ils vivaient. Et je me dis, si les enfants d'Israël ont fait beaucoup plus de temps que prévu, ils ont également eu une certaine influence sur les kairos, on est d'accord? Sauf que cette influence n'était pas du tout positive. Alors, fort heureusement pour eux que la fidélité de Dieu a un pouvoir conservateur. Dieu demeure fidèle à sa parole et le kairos ne s'arrête pas parce que les gens dans le chronos ne comprennent pas. Et passons à la dimension collective. Aujourd'hui, le peuple de Dieu également a reçu une promesse de la part de Dieu, de la part de Christ, à savoir son retour. Et le kairos, pour ceux à qui Dieu a fait la grâce de le voir et de le comprendre, savent que le kairos est en train de s'aligner déjà pour préparer le retour du Christ. Amen. Et aujourd'hui, cette promesse s'est adressée à l'Église. Alors rapidement, on va essayer de définir qu'est-ce que l'Église. Et du latin ou du grec, comme vous voulez. Ecclesia, et plus spécifiquement du grec, ce mot qui est scindé en deux, ek, ek, et puis kaleo à côté. Ek qui veut dire hors de, et kaleo c'est appelé, convoqué ou invoqué. Alors, le sens étymologique de la Bible signifie simplement une assemblée des citoyens appelés à vivre hors de. Et alors, historiquement parlant, enfin, on va rattraper également votre cours d'histoire. Je ne vais pas demander, mais je sais qu'on est nombreux à lire ce cours. Enfin, à ne pas apprécier. Historiquement parlant, les rassemblements d'Ecclésia étaient des réunions, comme à Athènes, où le boulet préparait des propositions de loi et convoquait ensuite les membres d'Ecclésia pour essayer de décider pour, enfin, au sujet des problèmes qui s'est passé dans les villes. Alors, Ecclésia, c'était une assemblée des personnes, des nobles, des guerriers, bref, des personnes qui étaient intelligentes, des personnes haut placées, des personnes qui savaient réfléchir, des personnes qui avaient une influence dans la cité. Alors, à chaque fois qu'il y avait un rassemblement d'Ecclésia, ces personnes sortaient un peu de la cité ou étaient dans un endroit fermé et réfléchissaient par rapport aux problèmes qui se passaient dans la cité. Et lorsque Christ parle dans Matthieu 16, 18 de son Église, il fait également allusion à cette assemblée des personnes puissantes qui vont se mettre à part pour réfléchir et résoudre ensuite les problèmes qui sont dans la cité. En d'autres termes, on a certes reçu la mission aujourd'hui, on attend tous la grande promesse, le retour du Christ, mais on ne doit pas oublier notre rôle étant qu'Église. Nous sommes appelés à être cette assemblée des personnes qui se réunissent, qui discutent des problèmes qui se passent dans la cité. On a dit que ce sont des citoyens appelés à vivre hors d'eux. C'est vrai qu'on est dans le monde et que nous ne sommes pas du monde, mais cependant nous sommes également appelés à réfléchir et à résoudre le problème qui sont dans le monde, étant qu'Église. Et je pense que c'est fortement le temps dans lequel nous vivons. C'est fortement le temps dans lequel nous vivons. Et Dieu ne regarde pas l'âge, il regarde juste la disposition des cœurs des personnes pour vivre ces temps avec lui plutôt. Je suis fermement convaincue que c'est ces temps où on doit vraiment recentrer nos vies sur Christ, revoir le sens de nos priorités, revoir la manière avec laquelle nous gérons notre temps. Comme je l'ai dit, déjà en moyenne on dort 8 heures par jour, donc ça, c'est déjà un tiers de notre journée qui part dans le sommeil, c'est un tiers de la vie qui part. Et dans les deux tiers qui restent, nous avons pleinement la mission de nous investir, d'investir notre temps à Dieu. Et on a vu qu'il y a eu deux hommes dans la Bible, peut-être plus, peut-être que je ne connais pas. Voilà, on a parlé de Josué et d'Élie qui ont eu une certaine influence sur le temps, une influence positive sur le temps. Et nous voyons la masse populaire du peuple élu de Dieu qui a une influence que je dirais négative, parce que les 30 ans de plus, c'était des 30 ans de souffrance et de cris. Car Dieu dit même à Moïse que j'ai entendu les cris, raison pour laquelle je t'envoie. Et je pense fortement que c'est le temps dans lequel nous vivons. Nous sommes une église. Peu importe les dénominations ou je ne sais quoi d'autre, mais nous sommes une église et on a une lourde responsabilité, celle d'être en mesure de lire le temps et de comprendre ce qu'il faut faire. Parce que les promesses de Dieu adressées dans notre vie de façon individuelle ou les promesses de Dieu adressées de façon communautaire dans notre vie passera forcément par le temps. Et pendant que nous sommes vivants, nous avons pleinement la responsabilité de lire et de connaître. Alors, la question que je me suis posée encore, mais comment impacter? Bon, je me réveille un bon jour, il fait froid, je dis Seigneur, que le soleil s'arrête comme ça. Je ne vais pas à l'école ou je reporte un rendez-vous. On est censé impacter tout d'abord en reconnaissant Christ comme notre Sauveur et Seigneur. J'ai été éblouie en discutant avec une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui me dit « Ouais, je vais servir Dieu, je vais être là, je vais être présente, je veux... » Bref, la personne était tellement enthousiaste dans ses propos. Mais une chose que j'ai remarqué comme un hic. La personne ne prenait pas du tout le temps de reconnaître vraiment Christ comme son Seigneur et Sauveur. Je me dis, mais comment tu veux être engagé dans une entreprise où le boss ne te connaît pas? Tu vas travailler en vain. Il faut passer par l'enregistrement. On passe, son ordre dans tes dossiers. C'est vrai qu'on a parfois les bonnes intentions. Mais la relation avec Christ, ça compte beaucoup plus que tout. Et la relation avec Christ, ce n'est pas celle qu'on garde dans notre placard et que nous allons consulter uniquement en cas de besoin. En tout cas, je ne sais pas si je me trompe, mais je n'ai jamais lu dans la Bible que Christ était que Christ travaillait dans le métier de quado. Enfin, quado, c'est un mot purement quinois qui veut dire service de réparation de pneus. Christ n'a jamais été un employé du quado en mode quand ton pneu est crevé, c'est uniquement à cet instant-là que tu penses qu'il peut y avoir un service à côté pour te dépanner. Non, la relation avec Christ, c'est celle qui se vit maintenant, c'est celle qui se vit aujourd'hui. Et c'est une relation qui se vit également en permanence. Le Seigneur m'a fortement convaincu que ce n'est pas la première fois que les personnes qui sont ici présentes et qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu, ce n'est pas la première fois pour elles d'entendre cette parole. Mais j'aimerais bien vous le dire à nouveau. Christ est amour. Oui, Christ est amour et il a extrêmement besoin de toi. Et il a fait la promesse de revenir et son kairos s'aligne déjà à ça. C'est la raison pour laquelle son Église doit fortement être éveillée. Et il est temps pour nous de nous aligner par rapport aux réalités d'en haut. Il est temps pour nous de recevoir les directives d'en haut. Il est temps pour nous de revoir notre sens de priorité. Oui, il est temps pour nous de chercher encore Dieu. De chercher Dieu comme si hier nous ne l'avons pas encore fait. De chercher Dieu comme si nous étions de nouveau convertis. Au début de la conversion, tout le monde a ses ailes. On va à l'église de dimanche au dimanche, même si on dit on va gêner, 30 jours, on est à fond. Et même si on nous demandait de sortir nos propres économies pour contribuer, aider quelqu'un, on est à fond, on donne sans réfléchir. Mais après, très souvent, cette flamme, pour certains, elle s'éteint et pour d'autres, elle grandit. Et j'aimerais nous exhorter à lire le temps. Oui, je suis jeune. Oui, j'ai le temps. Oui, tu es jeune, tu as le temps. Comme plusieurs le disent. Oui, je suis jeune. Oui, j'ai le temps. Je me repentirai plus tard, au moment venu. Je vais profiter tout d'abord de ma jeunesse. J'aimerais nous dire une chose, que ce qui plaît au corps, c'est ce qui le détruit par la même occasion. Et ce qui plaît à l'esprit préserve le corps. Parce que très souvent, nous sommes à fond dans la jeunesse. Ouais, je vais vivre ma vie. Il y a un artiste que je suis depuis quelques mois qui s'est repenti il y a 3 ans. Et il nous disait exactement dans son témoignage qu'il disait qu'il va se repentir après, plus tard, quand il grandira. Mais la vie dans laquelle il vivait ne lui rassurait même pas qu'il allait vieillir, au fait. Parce qu'il était dans tout ce qui pouvait, le conduire le plus vite possible à la mort. Alors, ce qui plaît au corps le détruit. Et ce qui plaît à l'esprit préserve les corps. On a beaucoup d'exemples, prenons le plus concret. Les jeunes ou les grandes personnes qui fument. On voit sur les paquets la notice de... on le voit tous. Mais on achète, on consomme. Et on augmente en même temps la probabilité d'avoir un cancer de poumon qui pourrait nous ôter plutôt la vie. Et on pense, malgré cela, avoir le temps de nous repentir. Alors, j'aimerais également nous dire une deuxième chose, que nous vivrons tous l'éternité, ça c'est sûr. Peu importe la religion, peu importe la nature, nous vivrons tous l'éternité. Mais sauf que nous n'aurons pas tous la même destination. Ça, il faut également se le dire. Et alors, c'est une courte durée de vie sur Terre qui définira l'éternité après la vie sur Terre. C'est comme si tu participais à un entretien du travail de 5 minutes, mais ça peut définir peut-être ta carrière de 40 ans après. C'est vraiment un court temps que nous passons sur Terre. Et ça passe vite. Ça passe hyper vite. Moi, j'ai déjà 20 ans. À un moment, je me dis à quel moment j'ai grandi. Ouais, enfin, personnellement, à un moment, je commençais à stresser. Du moment où j'ai eu 15 ans, je commençais à stresser. Je disais à mon père, ouais, je grandis. Ouais, je grandis. Je vais être millionnaire le plus vite possible. Non, mais ça, c'était vraiment ma peur, grandir. Et ça passe vite, ça, il faut se le dire. Et c'est vraiment un temps assez court que nous passons sur Terre qui va définir le temps, le grand temps, l'éternité que nous vivrons après. Alors, j'aimerais dire à ceux qui pensent être du côté des dieux de repenser à la parabole des 10 vierges. Elles avaient toutes l'apparence de la piété, mais cinq d'entre elles régnaient complètement ce qui en faisait la force, comme l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée, le chapitre 3. Elles étaient toutes vierges dans cette parabole. Donc, physiquement parlant ou extérieurement parlant, elles s'étaient préservées d'une certaine manière. Mais dans ce même groupe des personnes qui étaient censées attendre l'époux, cinq n'ont pas eu le réflexe d'avoir assez d'huile dans leur lampe. Et cela leur a coûté beaucoup. Et je pense que nous retrouvons encore des personnes avec cette même caractéristique aujourd'hui dans nos assemblées. Des personnes qui ont l'apparence de la piété. En tout cas, ce n'est pas du tout un jugement, mais j'aimerais que chacun de nous soit sincère envers lui-même. Alors, j'aimerais très brièvement vous parler d'un rêve que j'ai fait il y a une ou 2 semaines. Et à ma grande surprise, à mon réveil, le Seigneur me mettait à cœur de le raconter à quelqu'un. Alors, j'appelle la personne vite fait, je lui raconte. Et la personne également avait fait le même rêve. Et quand il me dit, c'était à peu près dans les mêmes temps. Bon, moi, je vais avouer que j'aime bien dormir. Enfin, j'aime bien le moment de repos. Parce qu'on rend tout contact avec l'extérieur. Et donc, j'avais prévu une sieste de 2 heures et j'ai dormi 4 heures. Et donc, c'était pendant ce temps de repos que je voyais ce rêve. Nous étions dans un endroit calme et paisible. Et tout à coup, il y avait un vent qui a semé exactement de la peur, la panique, et tout le monde courait dans tous les sens. Et j'ai crié le prénom de mes plus jeunes sœurs. Je ne pouvais pas quitter cet endroit sans eux, en fait, sans elles. Je me sentais responsable d'elles et j'ai crié leur prénom. J'ai vu au loin l'une d'elles venir. Elle n'avait plus. Enfin, c'est comme si je voyais ses os, un peu comme son squelette. Mais au plus elle s'approchait de moi, plus elle avait son corps. Et c'était juste bizarre. Alors, j'ai parlé avec la personne que j'avais appelée juste après. On a essayé de discerner, de voir. Et je priais ensuite pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce que ça voulait signifier. Alors, il y a quelques jours, le Seigneur m'a aidé à comprendre que, enfin, au fait, mes 2 jeunes sœurs ont donné leur vie au Seigneur le mois dernier. Et donc, le Seigneur me disait, les appeler, c'est comme si tu les appelais à la repentance. Dans le rêve, je ne pouvais pas quitter cet endroit tumultueux sans elles. Et j'ai crié leur prénom, c'était les appeler à la repentance. Et voir ma sœur quitter d'un squelette à son corps, c'était exactement ça le processus du salut. Mais j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me parles de ça maintenant? Le Seigneur me dit, oui, il est temps de s'élever et de parler de Christ autour de nous. Oui, il est temps de nous-mêmes nous assurer qu'on est du bon côté et d'appeler les autres à nous rejoindre. Alors, pour cela, il faut véritablement recevoir nous-mêmes d'abord, reconnaître Christ comme notre Seigneur et Sauveur, puis appeler les autres à rejoindre. Et ce qui était dommage dans ce rêve, c'est qu'à un moment, quand on a trouvé un endroit de refuge, j'ai vu des personnes qui sont théoriquement chrétiennes n'aient pas trouvé d'endroit de refuge et être tapées, tabassées. C'était vraiment effrayant. Et il y a quelques jours, le Seigneur m'a aidé à comprendre qu'il y aura vraiment ce temps-là de persécution, si je peux le dire comme ça, pour ceux qui ne voudront pas donner véritablement leur vie au Seigneur. Bref, ce n'est pas pour inciter quelqu'un à le faire d'un coup, Mais j'aimerais simplement me décharger de cette responsabilité. Alors, le deuxième point, nous sommes appelés, étant qu'Église, à reconnaître Christ. Enfin, le premier point, c'était reconnaître Christ comme notre Seigneur et Sauveur, mais également à briller. Et ça, c'est dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 14. La Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on va lire également Ésaïe, le chapitre 60, le premier et le deuxième verset. La Bible me dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des les peuples, mais sur toi, la gloire, mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Donc, les Seigneurs nous appellent à prier. Il est défendu dans la Bible, enfin, la Bible conseille de ne pas avoir beaucoup d'enseignants, mais nous sommes tous, aussi nombreux que nous sommes, appelés à briller pour Dieu. Et je pense que la meilleure, une bonne manière également d'évangéliser, c'est nous-mêmes vivre ce que nous voulons dire ou déclarer aux autres. Alors, ce matin, lorsque tu te trouveras du bon côté, du côté de Dieu, assure-toi d'avoir assez d'huile dans ta lampe pour briller, afin d'éclairer les nations. Car tu es une église appelée pour résoudre le souci de la cité. Et le plus gros souci de la cité, c'est le péché. Et seul Christ a la possibilité de délivrer du péché. Alors, si tu es dans le bon champ, rassure-toi de véritablement suivre le roi de rois et d'après sa force. Amen. Alors, on va conclure ce moment en disant ceci. Trois petites paroles. L'homme n'est pas maître de son temps. Alors, à ceux qui pensent ne plus avoir assez de temps, avancés en âge, peut-être souffrant dans leur corps, en attente des promesses, le Seigneur me demande de vous dire ceci. Prenez garde de ne pas tomber dans la passivité. Demeurez actifs, car Dieu vous veut encore sur son champ de bataille. Car sa fidélité a un pouvoir conservateur. Moïse a déclaré dans la Bible que 40 ans après, il avait la même force dans son corps, car Dieu a pu conserver cela. Et les enfants d'Israël, pendant toute leur marche dans les déserts, ils n'ont vu ni leurs pieds être enflés, encore moins leurs chaussures s'user, simplement parce que Dieu les conservait. Alors, il s'est conservé tant dans le visible que dans l'invisible, tant dans le corps que dans l'esprit et dans l'âme. Alors, à ceux qui pensent avoir assez de temps, étant jeune et fort, prenez garde de ne pas tomber dans la procrastination, car demain peut s'avérer tard. La vie avec Christ se vit maintenant, dans le présent, pour l'éternité. Et à ceux qui veulent faire bon usage de leur temps, prenez garde de ne pas tomber sous la pression du monde actuel, dont les intérêts sont tout autres que ceux de Dieu. Le monde actuel nous propose fortune, gloire, succès aux yeux des hommes, pouvant aboutir à des jalousies et à la mort. Mais vivez utile, vivez essentiel, vivez Dieu en priorité. J'aimerais que l'on puisse dire à notre voisin, vivez essentiel. Vivez Dieu en priorité. Alors, le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, le verset 16, nous dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Que Dieu bénisse sa parole.